premier temps de notre série sur Karl Marx à l'occasion du 150e anniversaire de la publication du premier tome du Capital. Il y a presque deux semaines, sortait en salle le dernier film de Raoul Peck, Le jeune Karl Marx. Il nous rappelait qu'avant le philosophe barbu et grisonnant assis dans son fauteuil, il y avait eu un autre Karl Marx arrivé à Paris à 25 ans, en 1843. Nous en parlerons d'ailleurs demain dans un documentaire sur le séjour parisien de Marx et de sa jeune famille. Mercredi, nous recevrons le biographe de Karl Marx, homme du 19e siècle, Jonathan Sperber, qui vient de publier un livre sur ce thème, donc aux éditions Piranha. Et jeudi, nous nous demanderons ce qu'est l'histoire marxiste aujourd'hui. Et ce matin, nous avons le plaisir de recevoir Thomas Piketty, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, auteur il y a 4 ans du Capital au 21e siècle, un livre qui est devenu un succès mondial, un livre d'économie, mais aussi, et c'est pour ça que nous le recevons, un livre d'histoire sur lequel plane lointain le fantôme de Karl Marx. Nous verrons avec Thomas Piketty ce qu'il garde ou pas de l'œuvre majeure de Karl Marx, donc le Capital. Bonjour Thomas Piketty.
Bonjour.
Dites donc, il n'y a pas un peu de difficulté à faire comprendre que inviter Thomas Piketty dans une émission d'histoire sur Karl Marx, eh bien, c'est normal parce que j'ai reçu depuis hier que j'ai annoncé sur les réseaux sociaux votre venue. Mais quoi, Piketty, comment peut-il parler de Marx, lui qui est si éloigné de Marx? C'est assez étrange. Vous avez l'impression tout de même que vous pouvez justement, non pas vous réclamer de Marx, mais en tout cas intégrer Marx dans un plus large corpus des penseurs de l'économie. Économie politique, Thomas Piketty?
Oui, me réclamer de Marx, pas vraiment, mais disons que ce que j'ai essayé de faire moi dans ce livre, Le Capital au XXIe siècle, c'est de reprendre la question du capital au XXIe siècle, 150 ans après la publication du Capital, presque 200 ans après la naissance de Karl Marx. Donc forcément, j'ai un avantage qui est évident, qui est le recul, c'est-à-dire que j'ai 150 années d'histoire que j'essaye de raconter. Et donc moi, mon premier objectif dans ce livre, je pars des sources sur les patrimoines, donc sur le capital, sur la propriété, sur les revenus, et j'essaye de raconter une histoire à partir de ces sources, parce que derrière ces sources historiques, statistiques, il y a des histoires humaines, passionnées, politiques. C'est une histoire politique, l'histoire du capital, avec des hauts, des bas, des événements inattendus, qui n'aurait peut-être pas surpris Karl Marx à un niveau très général, parce qu'effectivement, c'est une histoire de lutte, incontestablement. Après, évidemment, c'était impossible en 1867, en 1847, de raconter toute cette histoire. Donc ce sont des types d'approches très, très différents. Le capital, pour moi, c'est quand même un peu trop spéculatif, théorique. Et en même temps, il n'a pas aussi tous ces matériaux sous la main. Donc c'est un peu facile de lui reprocher.
Mais il faut le lire, le capital, vous pensez, aujourd'hui?
Alors, moi,
je peux le lire parce qu'il est difficile à lire.
Oui, il est difficile. Moi, j'ai mis du temps à le lire complètement. Comme étudiant, j'avais lu, un peu comme tout le monde, les textes plus courts du jeune Marx sur l'idéologie allemande, le manifeste communiste, les textes plus courts. Le Capital, donc, dont le premier volume paraît en 1867, il y a 150 ans, et dont les deux autres volumes ne sont jamais parus du vivant de Marx. Donc après 1883, après sa disparition, ils ont été rassemblés, compilés d'une façon qui n'était pas vraiment... Il n'avait pas eu le temps de finir. Le livre... moi, je trouve est trop théorique, spéculatif. Il y a des parties intéressantes. C'est inégal. Je suis désolé si certains sont choqués, mais je trouve ça globalement assez confus comme livre. C'est-à-dire que l'organisation générale, là où il veut aller, c'est pas très clair. Et bon, le fait qu'il ait pas été terminé aussi, mais c'est une œuvre en construction. Je suis plus impressionné, disons, par le Marx plus jeune, polémiste, journaliste, ses textes sur le coup d'État de 1848, ça c'est formidable. C'est-à-dire que dans le feu de l'action, il arrive à mêler des connaissances d'ordre très différent, une mise en perspective, une plume incroyable, enfin un talent. Là, je vais pas chercher à comparer à ça. C'est quelque chose d'incroyable. La grande œuvre, le grand volume, le Capital qui arrive sur la fin, par rapport à ça, est plutôt en dessous.
Alors, néanmoins, Karl Marx est et se veut un économiste politique. Enfin, il pratiquait l'économie politique qui s'est développée depuis au moins le 18e siècle un peu partout en Europe. Et il s'inscrit, et vous insistez là-dessus, quand vous parlez de Marx, dans le Capital au 21e siècle, Thomas Piketty, il s'inscrit dans la lignée des économistes politiques, et un peu plus tôt que lui, par exemple d'un Ricardo, peut-être moins d'un Jean-Baptiste C, mais aussi peut-être d'un Adam Smith. Il est un des maillons de cette chaîne de la construction de l'économie politique au 19e siècle, Thomas Piketty.
Oui, et en même temps, l'économie politique elle-même fait partie de la philosophie morale et politique. Et on est à une époque où les choses, où les frontières sont moins claires qu'aujourd'hui. Et je pense, d'ailleurs, pour moi, aujourd'hui, les frontières devraient être un peu relâchées. Moi, personnellement, je me considère plus dans ma pratique comme chercheur en sciences sociales que j'ai aucune identité d'économie. Je pense que l'économie n'existe pas. Si je veux vraiment choisir une discipline au sein des sciences sociales, je me sentirais plus proche de l'histoire, parce que ma démarche, c'est d'abord de partir de ces sources sur les déclarations de revenus, les déclarations de patrimoine, et après d'essayer de voir si on peut les faire parler, s'il y a des raisonnements, des mécanismes plus théoriques, conceptuels à essayer de dégager pour mieux comprendre ces sources, alors pourquoi pas, mais à condition de le faire avec beaucoup de parcimonie. Alors, Marx, parfois son recours à la théorie, à l'appareil conceptuel est pas toujours aussi parcimonieux que ça devrait être, mais en même temps il a un immense mérite et qui fait aussi tout l'intérêt de sa démarche, et qui part de constats sur le monde industriel qui l'entoure, la révolution industrielle, sur la première moitié, même les deux premiers tiers du 19e siècle. Rétrospectivement, on peut dire qu'il avait raison, dans le sens où on a une période d'une incroyable régression sociale, d'une stagnation salariale. Voilà, une des stagnations dont je parle dans mon livre. C'est-à-dire qu'effectivement, de 1800 à 1860, même si on n'a pas de statistiques parfaites, on en a assez pour savoir qu'on a une stagnation des salaires, alors qu'on est en plein boom industriel. Et on a même une dégradation avec un travail des enfants. On a maintenant des preuves claires, par exemple, sur la taille de certaines générations de travailleurs urbains qui diminuent pendant les deux premiers tiers du 19e siècle, qui est la preuve de conditions de vie qui se sont non seulement qu'on n'a pas améliorées, mais qui se sont dégradées. Donc il y a des choses qu'il voit autour de lui, et à côté de tous ces observateurs qui refusent de voir tout ça, je pense que c'est quand même c'est une leçon à méditer.
Oui, et c'est d'autant plus intéressant que vous l'avez mentionné en passant, Thomas Piketty, il ne dispose pas des outils statistiques qui se sont élaborés, d'ailleurs, plutôt vers la fin du 19e siècle, qui commence avec la fin du 19e siècle, ou en tout cas, s'il a des outils statistiques, ils sont parcellaires, mais il lit énormément, il se renseigne énormément, il est journaliste, polémiste, il s'intéresse par exemple à la crise de 1857, qui démarre des États-Unis et qui se contamine, qui va être traverser l'Atlantique pour venir jusqu'en Europe. Et cette crise de 1857, il y voit la crise du crédit. Il se dit, il y a quelque chose sur la question du crédit à voir de ce côté-là. Et il voit aussi la possibilité que le régime capitaliste qui s'est développé entre-temps finisse par chuter, parce que justement, d'un pays à l'autre, une crise peut se propager. Ça, c'était une vision intéressante, même si, à la fin, la crise de 1857 ne conduit pas à une grande crise mondiale comme il l'avait espéré Thomas Piketty.
Oui, il y a des choses très très intéressantes dans ce qu'il voit. Je dirais peut-être le plus intéressant. Bon, il a une documentation qu'on connaît, qui est d'ailleurs très liée à sa vie personnelle, à son ami Friedrich Engels, qui lui fait voir des choses sur les ouvriers à Manchester que lui-même voit à travers son père, propriétaire d'usine. Lui-même, dans sa famille, il y a des propriétés de vignerons en Moselle qu'il est amené à observer de près, dont il parle. Les choses les plus intéressantes, c'est quand il met en perspective le régime de propriété du 19e siècle par rapport à d'autres, et qu'il en refuse, disons, il refuse l'idée d'un caractère naturel de la propriété, qu'il y a vraiment différentes formes de régime. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est très bien montré dans la scène introductive de ce film,
le jeune
Karl Marx, où on voit ces paysans pauvres qui ramassent du bois mort dans une forêt.
C'est l'article sur le vol des bois.
Voilà, et qui se font dévaster par ces cavaliers envoyés par les propriétaires et qui les frappent durement. Tout ça parce que le régime légal qui autrefois permettait de ramasser le bois mort sur un champ qui ne nous appartient pas, mais ne permet pas de couper un arbre, s'est durci. Et donc il y a à la fois, il y a deux choses très très fortes dans cette scène introductive et dans cette descente de Marx. Il y a un durcissement du droit de propriété lui-même, c'est-à-dire qu'on introduit des frontières dans l'extension de la propriété privée, et on a un appareil de contrôle de la propriété,
répressif.
Donc un appareil répressif, parfois étatique, qui là aussi prend des dimensions qu'il n'y avait pas dans les périodes précédentes. Donc c'est cette mise en perspective qui est très intéressante.
Alors vous dites dans le Capital au XXIe siècle, Thomas Piketty, eh bien il voit des choses, mais il y a des choses qu'il voit pas. Et vous vous êtes même étonné qu'il ne voit pas, par exemple, les tentatives d'estimation du stock du capital national qui existent, dites-vous, à ce moment-là, en Grande-Bretagne. Il est en Grande-Bretagne. Il y a un début de réflexion étatique, pourrait-on dire, sur ce que c'est que le stock de capital national. Et vous dites, s'il avait regardé un peu la comptabilité nationale, ce qu'il n'a peut-être pas fait, ça lui aurait permis de confirmer des intuitions, parce que vous reconnaissez à Marx le fait qu'il ait eu des intuitions, l'intuition en particulier sur l'énorme accumulation du capital privé de l'époque, et donc peut-être l'aider à mieux construire son modèle explicatif, dites-vous, Thomas Piketty.
Oui, je pense qu'il passe un peu à côté de cette comptabilité nationale qui a l'état de balbutiement au XIXe siècle, mais qui quand même se développe avec des auteurs comme qui sont souvent des auteurs bourgeois comme Giffen au Royaume-Uni, mm-hmm. qui lui s'extasie devant cette immense accumulation de capital au Royaume-Uni, bien supérieure à toutes les dettes publiques qui avaient fait un peu peur à Ricardo plus tôt dans le siècle, et Giffen plus tard montre que toutes ces accumulations industrielles, ces accumulations d'actifs financiers internationaux ont relégué les dettes publiques du début du siècle à l'état de souvenir. Il s'extasie complètement, mais Marx aurait pu utiliser ces matériaux dans un sens différent, en particulier au-delà de l'estimation du stock de capital au niveau national pour un pays emblématique pour la révolution industrielle comme le Royaume-Uni. Il aurait pu tenter d'expliciter une estimation de la part des profits au Royaume-Uni, de la part des salaires. Donc il le fait, mais d'une façon assez anecdotique. C'est-à-dire qu'on trouve dans le Capital des passages où il parle de comptes d'un certain nombre de fabriques, dont il dit qu'ils lui ont été donnés directement par le propriétaire, et sans doute par Friedrich Engels ou par d'autres connaissances. Il les analyse. On voit qu'il a en tête une structure de part de profit, de part de capital, avec une part de profit dans la production totale qui dépasse les 50%, les 60%, ce qui effectivement peut se voir dans un certain nombre de secteurs, n'est pas forcément la moyenne, mais à cette époque-là, ça pouvait monter en moyenne sur l'économie anglaise, peut-être à 40%. Mmh. Donc il donne des exemples qui sont, disons, peut-être un peu forcés par rapport à la moyenne, mais qui en même temps ne sont pas du tout anormaux dans un secteur très intensif en capital, qu'on peut retrouver aujourd'hui dans des pays pauvres, où le capital étranger vient s'investir dans des conditions réglementaires, des conditions de concurrence sur les salaires, de droit syndical extrêmement pauvres et contraignantes, qui fait qu'on peut se retrouver avec des parts des profits qui atteignent ce niveau-là. Alors, il le fait avec quelques exemples de comptes de fabrique. Il utilise un petit peu aussi, ça j'ai une tendresse particulière pour ça, les données, les dépouillements fiscaux britanniques des années 1840-1860, mais ça reste assez anecdotique par rapport à ce que des personnes très peu de temps après font ça dans les années 1860, 1870, 1880 et ce qui se développe ensuite. Bon, est-ce que ça l'intéresse pas? Est-ce qu'il a d'autres choses à faire? Je dirais que par rapport à la longueur quand même du Capital, qui est quand même un livre immense, hein. Je suis mal placé pour dire ça parce que mon livre est un peu long aussi, mais les matériaux empiriques sur lesquels se fonde mon livre, ce qui repose sur le travail des dizaines et dizaines de chercheurs, sont quand même plus importants. Il aurait pu aller plus loin, et je pense qu'effectivement ça aurait mis son analyse sur un plan plus historique, empirique, matérialiste, finalement, qui est supposé être son apport, son plan, alors que en passant beaucoup de parties qui sont quand même très dures à lire. Je ne sais pas si vous l'avez lu jusqu'au bout.
Ah non, oui, j'ai lu le vôtre, mais non.
Oui, mais c'est ça, la vérité, c'est que peu de gens vont jusqu'au bout. C'est pas seulement parce que c'est long, c'est parce qu'il y a des parties entières qui sont où ils répètent des choses beaucoup de fois, qui sont, il n'y a pas d'apport empirique nouveau, qui sont très théoriques, très spéculatives, et je pense que ça a diminué la puissance, la portée de ce travail.
Et surtout, il a une vision presque eschatologique de l'économie et de la société. Karl Marx, c'est un peu difficile de le dire comme ça, mais l'apocalypse est à l'horizon de, voilà, de son monde. C'est-à-dire qu'il lit tout à l'idée, et ça c'est son intuition, alors elle n'a pas forcément été confirmée dans beaucoup de cas, mais son intuition c'est que le régime capitaliste qu'il voit se développer sous ses yeux court à sa perte, et qu'il faut accélérer cette perte et cette chute du régime capitaliste en tirant parti de tout, justement, on parlait tout à l'heure de la crise de 1857 aux États-Unis, mais en soutenant les protestations proto-syndicales, en soutenant les ouvriers quand ils protestent, parce que chaque foyer qui peut naître de contestation de ce capitalisme peut conduire par contamination à la chute de ce régime capitaliste, Thomas Piketty.
Oui, alors ça c'est évidemment le problème principal, c'est que Marx prédit un effondrement inévitable du capitalisme, bon, qui de toute évidence n'a pas eu lieu, et surtout il s'intéresse assez peu, dans le fond, en tout cas dans ses écrits, à la question du lendemain matin, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait le lendemain matin où la révolution a triomphé, on a mis à mal la propriété capitaliste, comment on organise l'État ? Comment on organise le pouvoir, comment on organise une nouvelle forme de propriété sociale, une nouvelle forme d'échange. Là, on reste quand même un peu sur sa fin. C'est-à-dire que il y a cette espèce d'illusion qu'on met tout à bas et ensuite tout ira bien ou quelque chose d'autre s'inventera. Oui, effectivement, quelque chose d'autre s'est inventé. Mais quelque chose d'autre s'est inventé dans un vide conceptuel, avec un besoin d'improvisation permanente au pouvoir, avec ensuite des jeux de bouc émissaire et de toute l'histoire qui s'ensuit après 1917, pour le coup, dont Karl Marx ne peut pas être tenu pour responsable, parce que, dans le fond, s'il avait vécu un peu plus longtemps, peut-être que les analyses qu'il aurait fait de la Troisième République ou de la démocratie parlementaire allemande auraient été plus profondes et plus subtiles que certains de ceux qui se sont réclamés de lui. Mais toujours est-il que on peut quand même le reprocher dans ces travaux, de ce côté, comme vous dites, eschatologique, c'est-à-dire qu'il prédit l'apocalypse sans se soucier de la reconstruction du lendemain matin. Alors que, pour moi, tout l'enjeu est justement reprendre la question du capital au XXIe siècle, c'est justement d'abord essayer de comprendre tout ce qui n'a pas marché dans le capitalisme au XIXe siècle, qu'est-ce qui a provoqué ces crises, ces sentiments d'une profonde injustice, et comment le dépasser, ce capitalisme, mais pour de vrai, de façon concrète. Donc quelles sont les nouvelles formes de propriété, de limitation du pouvoir qui vont avec la propriété privée, qu'il faut développer, parce que malheureusement, comme on l'a appris au XXe siècle, là, il ne suffit pas de décréter la fin de la propriété privée pour mettre fin aux relations de pouvoir, parce que d'autres vont se saisir du pouvoir d'État, pour à la tête d'une propriété dite publique, mais qui ne conduit pas forcément à l'émancipation.
Et alors, on sait combien un certain désarroi d'une certaine gauche conduit beaucoup d'analystes à aller voir, par exemple, avant 1917 et même avant la fin du 19e siècle, toutes les possibilités, toutes les multiplicités de voies qui auraient pu être choisies et qui auraient peut-être pu voir se développer justement l'avènement d'une révolution différente. Tout de même, il y avait Proudhon, qu'il rencontre et qu'il attaque très violemment, un certain type de socialisme français. Il y avait également Bakounine, qu'il croise à Paris, lorsqu'il est à Paris, on le racontera demain, et qui va devenir une sorte d'ennemi juré de Karl Marx au sein de l'Association internationale des travailleurs. Il y avait des voies qui vont conduire d'un côté à l'anarchisme, de l'autre côté à un certain socialisme, et puis la voie de Karl Marx et la voie communiste qu'il prône.
Oui, et puis il y a surtout les voies qui ont été inventées ensuite pour de vrai, c'est-à-dire la voie qui a pris la forme de la sécurité sociale, de l'impôt progressif sur le revenu, sur les patrimoines, sur les successions, la voie qui a pris la forme du partage du pouvoir avec un véritable contre-pouvoir syndical dans les conseils d'administration des entreprises qui, en Suède, en Allemagne, ont entre un tiers, la moitié des sièges. C'est quand même tout à fait différent d'une situation où les salariés n'ont pas droit au chapitre. Et il y a toutes les voies à inventer pour la suite qui prennent la forme de nouveaux processus de démocratie délibérative, de propriété participative, avec des modes de prise de la décision qui permettent de réduire le poids de ceux qui apportent beaucoup de ressources. Donc tout ce grand débat sur la propriété et le pouvoir, il ne fait que commencer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de ce qui a été découvert, expérimenté au XXe siècle. Ces affrontements du XIXe siècle entre Proudhon, Marx, Bakounine, enfin, je veux pas les sous-estimer, ils sont très importants.
Mais ils sont de leur temps.
Ils sont de leur temps. Et depuis, on a 150 ans d'expérimentation contre nature qui montrent que s'il y a eu des désastres en particulier sur le, du côté de la révolution bolchévique. Il y a aussi eu des tentatives de dépassement du capitalisme qui ont conduit à des résultats très positifs et qui peuvent encore aujourd'hui être dépassés. Le problème, c'est que la chute de l'Union soviétique a conduit à une nouvelle phase de foi indéfinie dans la concurrence, la sacralisation de la propriété privée. Et donc, certaines des leçons positives du dépassement du capitalisme au XXe siècle, on finit par être nié par un certain nombre de courants idéologiques néolibéraux, etc., au cours des dernières décennies. Et donc, c'est ça l'enjeu aujourd'hui.
Alors, il y a une volonté, parfois, depuis quelques années maintenant, ça fait même plus d'une décennie, de retourner à la lecture de Marx, de se dire, on va pouvoir peut-être en faisant la part entre ce qui est encore valide aujourd'hui et ce qui ne l'est pas, nous installer dans une nouvelle lecture de Marx. Il y a eu ainsi un film paru il y a quelques années qui s'appelait Marx Reloaded, donc comme lorsqu'on recharge un logiciel sur son ordinateur, et il y avait Tony Negri qui évoquait ce que pouvait apporter la lecture de Marx aujourd'hui.
La crise, c'est quoi? C'est le fait que le système néolibéral n'arrive pas à donner aux gens le prix de leur travail. Le problème, le pire qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est d'oublier que la valeur, c'est-à-dire l'exploitation du travail, de la force travail, n'est plus seulement l'exploitation du travailleur de l'usine, mais c'est l'exploitation du travailleur de la société. Et qu'aujourd'hui, la production des cerveaux, l'invention, la recherche, le cinéma produisent plus de valeur que celui qui est produit dans les usines traditionnelles. Et aujourd'hui, le retour de Marx est sur ça. Chez nous, on veut faire la révolution à partir des usines. Au revoir. On la verra jamais. On doit partir de l'usine et de tous les autres travailleurs. Parce que ce sont les autres travailleurs qui sont les plus exploités.
Alors voilà de quoi réfléchir à cet héritage de Marx aujourd'hui à travers la voix du philosophe Tony Negri. Aujourd'hui, dans le Figaro, paraît un article de l'historien Pierre Vermeuren qui dit que nous vivons le retour du modèle capitalisme en France, que nous avons connu à l'époque de l'Empire colonial, financier, improductif, marchand et rentier, contrairement au capitalisme industriel qui, lui, a été vaincu dans notre pays. On voit bien qu'il y a des comparaisons qui se font très régulièrement à différents moments entre ce 19e siècle et aujourd'hui. Mais vous expliquez bien, Thomas Piketty, que entre-temps, l'économie a changé, évidemment. La question de la rente n'est pas la même, que la question industrielle n'est pas la même également, que la mondialisation a changé sûrement beaucoup de choses, et que, par exemple, au début du 20e siècle, est née une catégorie que ne connaissait pas Karl Marx, qui était la catégorie moyenne, la classe moyenne n'existait pas. Vous dites qu'en 1900-1910, cette classe moyenne, c'est presque rien, et que cette classe moyenne est devenue très importante aujourd'hui, Thomas Piketty.
Alors, elle est devenue plus importante, mais pour des raisons qui n'ont rien de naturel. Enfin, il n'y a jamais rien de naturel en général dans les évolutions économiques. Tout dépend du système politique, légal, des institutions qu'on se donne. Mais alors là, dans cette évolution à laquelle vous faites référence, moi, ce qui m'a le plus frappé dans mes recherches, c'est qu'il y a vraiment le poids des guerres mondiales, des transformations induites par les guerres. C'est-à-dire que le résultat qui m'a le plus frappé, qui parcourt mes travaux jusqu'ici, c'est que jusqu'à la Première Guerre mondiale, il n'y a pas vraiment de diffusion de la propriété, il n'y a pas vraiment de diminution des inégalités. Et jusqu'en 1914, on a un niveau de concentration du pouvoir et de la concentration du patrimoine qui est extrêmement élevé. Concrètement, en France, vous avez 1% des successions en 1913-1914 qui représentent 60% du total. À Paris, c'est 70%. C'est un niveau de concentration qui est sans doute encore plus élevé, qui est plus élevé qu'en 1820-1830, ça sans aucun doute, qui est sans doute même plus élevé qu'à la veille de la Révolution française. C'est-à-dire, d'une certaine façon, l'espoir de la Révolution française française, qui est de dire on met fin aux privilèges, on a un libre accès aux différentes professions, tout le monde peut devenir propriétaire, le droit de propriété est garanti par l'État, tout ça c'est bien beau, mais à la fin des fins, la concentration des propriétés un siècle plus tard est aussi forte, voire un peu plus forte qu'au point de départ.
C'est-à-dire que le premier centile, faut expliquer ce qu'est le centile dans un calcul comme celui-ci, c'était le premier pourcent d'une population et propriétaire de 50 à 60, voire 70%
de la richesse nationale. Et à l'inverse, à Paris, vous avez les deux tiers de la population qui ne possède strictement rien et qui décède en laissant aucun patrimoine ou dont les maigres effets personnels permettent à peine de payer les frais d'obsèques comme pour le père Goriot un siècle auparavant en 1820. Donc sur un siècle de révolution industrielle, la propriété ne s'est pas diffusée. Ça, c'est quelque chose de très frappant qui est nié d'ailleurs à l'époque par les élites, une bonne partie des élites de la Troisième République qui expliquent en France, écoutez, nous on a fait la Révolution française,
on est une France de petits propriétaires.
Et c'est pour ça que la France est le dernier pays à créer l'impôt progressif sur le revenu en 1914, alors qu'il est déjà créé dans tous les pays européens, parfois depuis 30 ou 40 ans, en Allemagne ou au Japon, ou au Danemark, ou en Suède, ou même au Royaume-Uni, aux États-Unis, qui sont arrivés plus tardivement, mais qui l'ont fait en 1908, en 1913. En France, on accepte, les élites, en particulier la majorité au Sénat, n'accepte de voter ça que pour financer la guerre contre l'Allemagne, et non pas pour financer des écoles ou financer la redistribution. Et en partie parce qu'il y a cette espèce de mauvaise foi que la Révolution française, avec son libre accès aux professions, a permis la réduction des inégalités. En vérité, si on regarde cette montée des classes moyennes au XXe siècle, on voit que ça se passe d'abord avec une fin des rentiers, c'est-à-dire que c'est avec la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, cette société patrimoniale avec des très forts patrimoines au sommet de la hiérarchie sociale s'effondre pour des raisons dramatiques de destruction, d'inflation, d'expropriation, de nationalisation. Et on a ensuite des systèmes de politique sociale, un système de sécurité sociale, un système de financement de l'école publique, de l'assurance maladie, mais qui était largement refusé par les élus jusqu'en 1914. Alors il y avait des prémices, il y avait des débats qui existaient, d'ailleurs déjà à la fin de la vie de Marx, à partir de 1870 jusqu'en 1914, sur l'impôt progressif, comme nouvel horizon de financement d'un service public, de l'État social, les premières assurances sociales se mettent en place. Mais il y a un accélérateur qui est donné par les crises des guerres mondiales, la crise des années 30, la Deuxième Guerre mondiale. C'est très difficile de refaire l'histoire sans ça. Mais quand on regarde les tendances lourdes des inégalités rétrospectivement, disons, on voit rien. On voit plutôt une montée des inégalités jusqu'en 1914, dont d'ailleurs il n'est pas interdit de penser qu'elle contribue non seulement aux très fortes tensions sociales, mais aussi à cet affrontement des nationalismes entre pays qui reste quand même une façon, encore aujourd'hui malheureusement, quand on ne sait pas comment régler les questions d'inégalité, trouver des boucs émissaires étrangers est une façon commode, il y a un siècle comme aujourd'hui.
Oui, vous dites tout de même que la naissance de ces classes moyennes qui se fait progressivement donc à partir de 1910, dans un pays comme le nôtre, mais également dans d'autres pays d'Europe, dites-vous, Thomas Piketty, ne correspond pas à une redistribution complète, justement, de cette question du capital. C'est-à-dire que, curieusement, il y a de plus en plus de classes moyennes, mais cette classe moyenne ne récupère pas que des miettes, mais qu'une partie de cette richesse nationale, même si elle croît en nombre, dites-vous.
Alors, j'essaye dans mes travaux de proposer des définitions pour ces différents groupes qui sont forcément réductrices, mais qui au moins permettent de faire des comparaisons.
Parce que classe moyenne,
des comparaisons dans le temps.
C'est compliqué.
Évidemment. Donc, quand je regarde la répartition des patrimoines dans différentes sociétés, afin de faire des comparaisons entre les différentes sociétés, je remplace le langage imagé que chaque époque invente pour désigner ces différents groupes sociaux par un langage froid désigné par les pourcentages. Donc ce que j'appelle
les
classe moyenne,
ou les centiles.
Ce sont les 40% de la population qui sont entre les 10% du haut et les 50% du bas. Donc ce sont des groupes qui sont en fait au-dessus de la moyenne et qui aiment bien justement utiliser le mot classe moyenne pour expliquer que finalement ils ne sont pas si riches que ça pour se distinguer des plus riches. Donc c'est un mot qui déjà est en soi un discours politique.
Ambigu.
Mais ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à la Première Guerre mondiale, ces classes moyennes, donc ce groupe des 40%, finalement, est presque aussi pauvre que les 50% du bas. C'est-à-dire, pour résumer, les 10% du haut possèdent 90% du patrimoine, dont 60-70% pour les 1% du haut. Si vous prenez les 10% du haut, vous avez 90%, et le reste se partage effectivement des miettes, mettons 5%, 3% pour les 50% du bas, et 5 ou 6% pour les 40% du milieu. Donc finalement, les classes moyennes n'existent pas dans le sens où elles sont beaucoup plus proches des classes populaires, des 50% du bas, que des 10% du haut. La grande différence, c'est qu'aujourd'hui, les 50% du bas ne possèdent toujours presque rien, possèdent 4-5% du total, mais ce groupe intermédiaire des 40% du milieu possède tout de même 20-30% du patrimoine national.
Mais il a fallu un longtemps depuis le début.
Alors, ce qui a mis très longtemps. Donc il y a deux choses qu'on peut dire. C'est d'abord cette égalisation, elle est limitée, c'est-à-dire que le patrimoine reste aujourd'hui extrêmement concentré. Et surtout cette montée des classes moyennes qui sont aujourd'hui fragilisées, c'est fait d'une façon complètement imprévue. C'est-à-dire que ça fait partie des ruses de l'histoire. Ça n'a pas été un processus assumé, des démocratiques, délibéré. Il n'y a pas, dans la réduction des inégalités au XXe siècle, n'est pas comme ça l'enfant naturel de la démocratie électorale, du suffrage universel, qui nous conduit naturellement à la réduction des inégalités. J'aurais préféré qu'il en soit ainsi. Ce serait une histoire beaucoup plus confortable à raconter, beaucoup plus optimiste pour la suite. Mais ça ne se fait pas comme ça. Ça se fait effectivement dans la douleur, avec des chocs très violents qui eux-mêmes sont peut-être aussi une réaction du corps social à un degré d'inégalité extrêmement fort. Finalement, de tout ça, de tous ces chocs, naissent des institutions, pour le coup, très pacifiques et qui ont permis d'égaliser la société, qui sont l'État social au sens large, qui sont l'impôt progressif, qui sont l'école gratuite, qui sont...
institutions qui sont régulièrement menacées de disparaître.
Qui sont aujourd'hui menacées et qui ont besoin aussi de se renouveler, parce que les besoins, par exemple, d'invention de nouvelles formes de propriété aujourd'hui, au XXIe siècle, à l'époque du crowdfunding, à l'époque où les syndicats sont affaiblis dans certains secteurs, on a des nouvelles formes de mobilisation de salariés dans d'autres secteurs, dans les services. On a besoin de repenser des formes de propriété, des formes de participation, y compris électorale, à la décision dans les entreprises, des formes de fiscalité qui s'intéressent davantage au patrimoine financier, au développement d'un véritable cadastre financier du monde, un peu équivalent à des formes anciennes d'enregistrement de la propriété, mais plus adaptées à la propriété d'aujourd'hui. Sinon, on se retrouve dans les situation où même un ministre du budget peut s'imaginer qu'il peut avoir un compte en Suisse sans jamais être découvert. Enfin, tout ça à quelques heures de TGV de Paris en Suisse. Et c'est, voilà, les Cahuzac peut penser qu'il ne sera jamais découvert. Donc ce degré d'impunité montre que là, il n'y a pas d'impossibilité technique à faire mieux que ça. Simplement, il faut développer, reprendre l'histoire de ces institutions et développer des outils qui soient adaptés à la structure capitaliste d'aujourd'hui.
Adieu mégaphone, adieu calico, adieu représentant synco, à moi le soleil et le calypso, la nana, la noix de coco. À moi, les alizés, les vents tropicaux. Et moi, bien frisé, sur le bateau. Adieu les traders, adieu jogging, les briefings à l'heure. Breaking, ouvrier, riez. Adieu les blouses grises en Chine, l'usine.
Parachute dorée de Alain Souchon dans une émission donc de la Fabrique de l'Histoire qui ouvre une série d'émissions sur Marx aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous recevons Thomas Piketty, auteur du Capital au XXIe siècle. Alors, Thomas Piketty, c'est un livre d'histoire, je l'ai dit en ouverture, que le vôtre, paru il y a maintenant 4 ans. C'est un livre d'histoire où vous êtes obligé de construire, comme le font les historiens d'ailleurs, des grilles d'interprétation, de construire des moyens pour pouvoir aborder une réalité qui est difficilement comparable. Et vous insistez dans votre travail sur la difficulté de la comparaison entre les sociétés de la fin de l'Ancien Régime ou du début du 19e siècle et aujourd'hui. Et vous dites, comment peut-on faire pour comparer la structure des inégalités dans des sociétés qui sont aussi éloignées dans le temps et dans l'espace, des sociétés qui utilisent des mots et des notions totalement différentes pour désigner les groupes sociaux. Là, on vient d'en parler justement à propos de la question des classes moyennes. Donc, il faut inventer ces outils d'une certaine façon quand on fait ce travail-là d'historien de l'économie, Thomas Piketty.
Oui, il faut inventer un langage, des notions qui puissent permettre des comparaisons. Et je crois que là, faut éviter deux écueils extrêmes symétriques. L'un de penser que c'est totalement impossible par nature et qu'aucune comparaison de cette nature est possible. Et l'autre, d'imaginer qu'avec ce langage qu'on a créé, on a dit la totalité de la réalité.
Et
c'est la seule
éternel.
Forme de langage qui permette. Donc moi j'essaye aussi dans mon livre, vous voyez, d'utiliser parfois, de faire des références à un autre type de langage qui est celui de la littérature, qui, je pense, est à une façon évidemment radicalement différente d'aborder la question des inégalités, mais qui en même temps, il y a une puissance expressive dans la littérature pour exprimer les conséquences, notamment de l'argent dans la vie des uns et des autres. On trouve ça, déjà Marx disait, c'est en lisant Balzac que j'ai appris tellement de choses. Je pense qu'on pourrait dire la même chose aujourd'hui sur le capitalisme mexicain tel qu'il nous les est raconté dans la volonté et la fortune, où on voit ces jeunes Gabriel Garcia Marquez qui nous raconte ces jeunes mexicains qui hésitent entre la révolution, l'héritage. Déjà, on voit, c'est pas exactement votre air Rastignac, c'est un autre contexte. On a ce président mexicain qui ressemble beaucoup à Vincente Fox, ancien cadre de Coca-Cola, et que le romancier moque gentiment. Bon, là, il y a une puissance expressive dans la littérature sur les conséquences de l'argent qui, par définition, ne va pas se lancer dans des comparaisons entre les différentes époques, va prendre les choses sous un angle complètement différent de l'hyper subjectivité, de l'hyper spécialisation des situations. Le langage que je cherche à développer pour faire des comparaisons, il est à la fois complètement différent, puisque voilà, il y a un côté très sec de dire on va comparer les 1% les plus riches,
les
1% les des États-Unis aujourd'hui, l'aristocratie en France en 1788, ça tombe bien, c'est également aussi à peu près 1% de la population. On va regarder la part des patrimoines détenus dans les deux cas, on va comparer les deux sociétés. Il y a quelque chose d'incroyablement naïf et réducteur là-dedans. Je pense que c'est acceptable à condition justement d'avoir du recul par rapport à sa propre pratique, et j'essaye d'en avoir. C'est-à-dire que je pense que ça permet d'apprendre des choses à condition de ne pas en faire le seul point de vue. C'est-à-dire que je pense qu'il faut croiser les langages. C'est-à-dire que je pense que le langage de la littérature, le langage des sciences sociales et des différentes formes d'approche en sciences sociales sont complémentaires les uns des autres. Et je crois que trop souvent,
aucun d'entre eux ne résume le réel.
Aucun d'entre eux ne peut avoir la réalité à lui tout seul. C'est différentes formes de langage qu'on doit inventer. Le langage statistique des catégories sociales, il a un mérite pour moi, c'est qu'il est profondément antinationaliste, justement. C'est-à-dire que c'est un langage qui oblige les uns et les autres à se comparer aux sociétés d'à côté. C'est-à-dire que chaque pays a tendance à s'imaginer unique, exceptionnel. Le sentiment d'exceptionnalisme est très fort aux États-Unis, par exemple. Il l'est aussi en France, il l'est en Chine, il l'est en Allemagne, il est partout. Chacun, comme ça, refuse les leçons des autres pays. Donc quand on dit, mais vous savez, tel autre pays, il a expérimenté tel mode de réduction des inégalités, finalement ça n'a pas si mal marché, regarde. Ah oui, mais c'est différent. Je pense que oui, c'est à la fois toujours différent et en même temps, il y a toujours des choses à apprendre et que les élites dans les différents pays ont toujours tendance à insister sur le caractère unique, exceptionnel de leur pays pour s'accrocher à leur conservatisme et pour empêcher le changement. Et je pense que pour moi, l'importance de ce détour par le comparatisme et par l'histoire comparative, c'est vraiment de montrer à quel point il y a des bifurcations institutionnelles en permanence dans l'histoire. Et non, il n'y a pas qu'une seule façon d'organiser le capitalisme. Ça n'a rien à voir quand vous avez un taux de taxation sur les successions de 80-90% comme vous avez aux États-Unis de 1930 à 1970.
70.
Ça n'a rien à voir avec le capitalisme que Trump voudrait, où il n'y aurait plus aucun impôt sur les successions. Donc, quand vous avez la moitié des sièges un conseil d'administration pour des salariés, ça n'a rien à voir avec un monde où les salariés peuvent être virés du jour au lendemain et n'a rien à dire dans la discussion. Donc tout ça, c'est le capitalisme, mais en fait non, ce sont plusieurs capitalismes et il y en a encore d'autres à inventer, à dépasser pour la suite. Et donc c'est en comparant ces différentes structures de propriété, de pouvoir, d'inégalité, qu'on arrive à dépasser cette espèce de naturalisme et cette illusion d'un seul capitalisme, d'une seule économie de marché indépassable, etc.
Alors ce qui est intéressant intéressant, c'est que on discute avec vous à l'occasion de cette semaine que nous consacrons à Marx sur France Culture. On discute avec vous justement des apports ou des apories de Marx dans son approche historique et économique. Et une d'entre elles que vous pointez du doigt, ça n'est pas Marx, mais ce sont ses successeurs, dites-vous, sont les combats bipolaires, dites-vous, entre les années 17 après la révolution soviétique et 89, la chute du mur, qui, dites-vous, sont maintenant derrière nous, et qui, selon vous, tels qu'ils ont été structurés dans le débat public, ont été loin de stimuler les recherches sur le capital et les inégalités, mais au contraire, ont provoqué un affrontement en capitalisme communiste qui a stérilisé d'autres manières d'envisager justement les répartitions entre la rente, le capital, etc. etc. C'est ce que vous pensez profondément ?
Je pense qu'il est nécessaire et possible aujourd'hui de développer une nouvelle forme d'histoire qui soit à la fois économique, sociale et en même temps politique, culturelle. Et je pense qu'effectivement, on a un peu trop abandonné une certaine forme d'histoire économique et sociale pour aller sur une histoire trop exclusivement culturelle et politique. Alors que je pense que les représentations culturelles et politiques que les uns et les autres se forment de leur société, ces imaginaires se nourrissent des évolutions salariales, patrimoniales, financières qui structurent la vie des différents groupes sociaux et qui se répondent en retour. C'est-à-dire que c'est un jeu croisé et je pense qu'il y a eu un moment... un itinéraire qui est intéressant, dont je parle dans la conclusion de mon livre, c'est l'itinéraire de François Furet, qui est assez emblématique de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il écrit son premier livre au début des années 60 sur l'histoire du profit en France au 19e siècle. C'est un livre qui sent bien son époque, qui est dans la grande tradition d'histoire sérielle de l'époque.
Issue du marxisme aussi.
Qui est issue du marxisme et qui aussi, à une époque où, je ne veux pas trop insister sur les déterminants technologiques de la production historique, mais c'est vrai que c'est difficile de collecter des données à l'époque. Donc beaucoup de ces livres, des livres de cette époque ou de livres de Labrousse sur l'histoire des prix et des salaires au XVIIIe siècle, par exemple, se présentent parfois un peu comme de grandes annexes statistiques. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les auteurs ont tellement souffert pour collecter leurs données qu'ils ont parfois envie de nous faire souffrir nous aussi, sauf que, en fait, aujourd'hui, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus facile, et voilà, c'est une chance pour les chercheurs de ma génération, de mettre des quantités énormes de données en ligne sur Internet, de ne pas saouler le lecteur avec ça, et d'essayer d'abord de se consacrer à l'histoire, de raconter une histoire, ce qui permet justement de sortir d'une vision trop exclusivement économique et sociale de ces évolutions, et d'essayer de raconter une histoire politique, sociale, culturelle. Ce que je fais de façon encore sans doute très très imparfaite dans ce livre qui colle peut-être un peu trop à ses sources, un peu moins que mon livre de 2001, Les hauts revenus en France au XXe siècle, qui là pour le coup colle vraiment à ses sources. Je pense qu'il faut réussir à mobiliser.
Mais ça, vous êtes en train de le faire, j'imagine.
J'essaye de. Moi, je suis au début de mon processus d'apprentissage. Hein, ça prend du temps, tout ça. J'essaye aussi de décentrer un peu plus le regard. C'est-à-dire qu'une des limitations peut-être aussi de cette histoire sérielle, économique et sociale des années 60-70, et qui est aussi une limitation de mon livre, c'est le côté un peu trop occidentalo-centré. C'est-à-dire que mon livre, c'est vrai, se concentre beaucoup sur le cas des pays d'Europe occidentale, des États-Unis, un peu du Japon, mais ce rôle en particulier des très fort des guerres mondiales dans la réduction des inégalités, si on prend le point de vue de l'évolution historique des inégalités en Inde ou en Afrique du Sud
latine.
Ou au Brésil, les guerres mondiales, ce sont quand même surtout des guerre européenne et ça a beaucoup moins transformé
les
choses.
Aujourd'hui, on relie la guerre de 1914 comme devant étant vraiment une guerre mondiale parce que c'est une des grandes apports.
La structure des inégalités en Inde, a été beaucoup moins fortement affectée par la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale que la structure des inégalités en France ou au Royaume-Uni. Donc, je pense qu'il y a un besoin aussi de décentrer le regard, de regarder des régimes inégalitaires et des structures sociales plus éloignées de celles qu'on considère comme universelles avec cette société de propriétaires du 19e siècle qui s'effondre avec les guerres mondiales, qui se reconstruit plus ou moins, mais l'état social, qui est une problématique qui traverse mon livre, dont je ne veux pas la mettre à la poubelle complètement, bien sûr, je dis juste que c'est une problématique qui est très occidentalo-centrée et que j'essaye de dépasser dans mes recherches aujourd'hui.
Oui, mais moi, il y a quelque chose qui m'intéresse dans ce travail tel que vous l'avez mené, Thomas Piketty, et vous l'avez dit depuis les hauts revenus en France, c'est-à-dire depuis maintenant plus de 15 ans, c'est le caractère démiurgique C'est-à-dire que tout compte fait, Karl Marx, avec lequel on a commencé notre discussion, c'est un homme qui pense le monde, d'une certaine façon, depuis sa chambre, en faisant venir des dizaines de lectures qu'il lit et qu'il organise de telle façon qu'il construit un système. Et c'est vrai qu'il y a un caractère démiurgique à ce travail que vous avez mené sur le capital au XXIe siècle. Certes, vous avez des dizaines de personnes qui ont travaillé avec vous et que vous remerciez dans cet ouvrage, des gens qui ont fait des travaux statistiques dans différents pays dont vous vous nourrissez, mais il y a toujours cette vision, pourrait-on dire, de haut, de celui qui synthétise, de celui qui... Est-ce que aujourd'hui une entreprise comme ça, ça n'est pas forcément une entreprise internationale, mondiale, de dizaines et de dizaines de chercheurs qui travaillent tous ensemble et peut-être avec un chef de file ou plusieurs chefs de file, mais qui, d'une certaine façon, serait un travail véritablement collectif, Thomas Piketty.
Oui, alors, je pense qu'il faut qu'il y ait une... il y aura toujours des écrits personnels où on n'engage que soi, et qu'on n'embarque pas tous les autres dans ces bêtises, et puis des travaux collectifs. Donc, ça tombe bien à votre question, parce qu'on va justement publier au mois de décembre notre premier rapport sur les inégalités mondiales. Alors, quand je dis « on », c'est un très vaste réseau qui aujourd'hui comporte plus de 120 chercheurs dans 70 pays du monde, qui s'appelle la World Wealth and Income Database,
WIT.World, qui était déjà présent,
dont les prémices étaient là, mais qui s'est beaucoup développé depuis, parce que sans doute pour moi l'effet le plus bénéfique du succès de ce livre, c'est que ça nous a permis dans beaucoup de pays où on n'arrivait pas à accéder aux archives fiscales, financières, de forcer le passage. Donc au Brésil, en Afrique du Sud, en Inde, en Corée, on a accès maintenant à des sources. En Côte d'Ivoire, on a beaucoup de pays de collaboration avec des pays d'Afrique de l'Ouest. On essaye vraiment de forcer des accès à des données qui n'étaient pas accessibles auparavant. Donc avec un très très grand nombre de chercheurs, Facundo Alvaredo, Lucas Chancez, Lydia Aswad, qui a eu accès à des données sur le Moyen-Orient récemment, notamment sur le Liban. Donc on a vraiment ce projet. Voilà, ce projet est devenu encore plus collectif. Donc on va avoir ce rapport qui sera co-signé par cinq personnes comme éditeur principal, mais qui implique plus d'une centaine de personnes, qui sera présenté à Paris lors d'une conférence le 14-15 décembre et qui va être publié dans une dizaine de langues dans les mois qui suivent. Donc ça, c'est vraiment un travail collectif et j'y tiens beaucoup. On est cinq co-directeurs, co-responsables, je ne sais plus, de ce projet. Emmanuel Saez, Gabriel Zucman, qui sont basés en Californie, d'autres qui sont basés ici à Paris, d'autres qui sont basés un peu partout dans le monde. Bon, après, il y a aussi des livres qu'on écrit tout seul, parce que je pense qu'il y a des choses dans lesquelles on fait son cheminement de pensée tout seul. Il y a quand même, se retrouver face à sa feuille blanche, je pense que c'est très important. C'est-à-dire les économistes, beaucoup d'économistes non seulement n'écrivent plus de livres, mais ne lisent plus de livres non plus, et pensent que la seule forme d'écriture, c'est l'article académique, technique, de 10 pages, 20 pages, 30 pages.
Oui, parce qu'ils croient que c'est une science, et vous dites que ça n'est pas une science.
Moi, je peux vous dire ce que j'ai l'impression de réfléchir beaucoup plus quand j'écris un livre comme ça, que certains disent que c'est de la vulgarisation, mais en fait pas du tout. C'est pour moi le fond de la pensée, c'est le livre. L'article technique de 10, 20 ou 30 pages scientifiques que reconnu par les pairs, en fait, c'est souvent on évite les questions difficiles. C'est-à-dire qu'on redécoupe les questions d'une façon tellement spécialisée, précise, que oui, on arrive à y répondre rigoureusement dans le sens que les canons scientifiques du moment ont donné à ce terme, répondre rigoureusement à une question, sauf qu'au passage, on a redéfini la question de façon totalement inintéressante, de façon justement à pouvoir y répondre suivant ces canons. Alors que quand vous écrivez un livre comme ça, vous n'avez pas le choix, vous partez des questions, et bah, il faut essayer de raconter une histoire. Alors, mais en même temps, j'ai pas forcément envie d'embarquer tout un collectif dans cette histoire, parce que voilà.
Donc il faut travailler.
Donc je pense qu'il faut faire les deux. Il faut faire les deux. Il faut faire du collectif. Mais il faut pas que ça mette fin à toute forme d'écriture individuelle, même s'il y a quelque chose d'un peu fou, effectivement, à s'imaginer comme ça, tout seul, soi-même, dans son bureau, repenser tout ça. J'ai quand même pas mal de recul là-dessus, et je, en particulier le succès de ce livre, si vous voulez, je ne considère absolument pas qu'un livre qui se vend à 3 millions d'exemplaires comme celui-là est mille fois mieux que tous les livres formidables qui ne se vendent qu'à 3 000 exemplaires. Ça démontre qu'une seule chose, c'est que le sens des vagues spéculatives ne concerne pas que l'économie et la finance. concerne aussi le champ intellectuel.
Et Henri Michaud disait qu'au-delà de 500 lecteurs, il y a forcément malentendu, donc vous êtes très très loin au-delà de 500 lecteurs avec ce capital au XXIe siècle. Et on va écouter maintenant le petit extrait du documentaire que nous allons diffuser demain sur Marx à Paris, et puis on termine avec vous.
Le Paris où arrive Marx, c'est un Paris allemand. Marx va d'abord évoluer dans un milieu d'émigrés allemands avant de peu à peu, par ses émigrés allemands arrivés avant lui, rencontrer des intellectuels, des ouvriers, des artisans français. Sur la période de la Restauration, on estime que 300 000 Allemands sont passés par Paris. Donc ce sont des gens qui transitent, qui passent par Paris puis vont à Londres, ou alors ils reviennent en Allemagne. Et du fait de ce transit permanent, il y a beaucoup de diffusion d'idées. C'est par ce retour d'intellectuels, d'artisans et d'ouvriers allemands vers l'Allemagne après être passés par Paris que commence à se développer une pensée communiste en Allemagne.
Und? Zufrieden, Karl?
Ob ich zufrieden bin?
Cologne. 1843, bureau de la Gazette Rhénane.
Deux choses me plaisent. Constater que mon article a eu de l'effet et voir enfin le despotisme prussien à visage découvert. Oui, ça me plaît bien, ça. Vous dites les choses à demi-mot. Vous écrivez de vagues critiques littéraires, de vagues résumés, de doctrines vaguement socialistes. J'en ai assez de vous tous. Jeune Hegelien, je ne veux plus me battre à coups d'épingle, mais à coups de massue. Nous sommes interdits. Tant mieux. Messieurs, je suis à vous.
Karl.
J'ai une proposition à vous faire. Je veux lancer une autre revue. Différente, plus libre, plus moderne, plus audacieuse. Paris, ça vous dirait ?
Voilà, c'est donc demain dans la Fabrique de l'Histoire, un documentaire composé avec Thomas Duterre sur Marx à Paris entre 1843 et 1845. Il y a deux choses, dit Marx dans cet extrait du jeune Marx, qui m'intéresse, c'est savoir que mon article a eu de l'effet. Bon, de ce côté-là, vous êtes assez tranquille. Et c'est montrer le despotisme à visage découvert. Qu'est-ce que vous pensez avoir montré comme despotisme dans cet ouvrage ?
Le despotisme du discours des élites, de l'hypocrisie des élites prête à tout justifier. Cette justification des élites françaises de l'inégalité d'avant 1914, ce refus de l'impôt progressif au nom du fait que la Révolution française a déjà rendu la société égalitaire, je pense que c'est une leçon à méditer pour toutes les élites aujourd'hui. Ce film, j'avais vu des critiques très très méchantes, j'ai été le voir ce week-end. Franchement, c'est mieux que ce qu'on pourrait croire. Ça se regarde très bien. Et cet internationalisme, en particulier des Allemands à Paris, cet usage du français, de l'anglais, de l'allemand, très naturel chez Marx, chez ses interlocuteurs, ça exprime finalement peut-être ce qu'il y a de plus important dans la démarche et dans ce prolétaire de tous les pays, unissez-vous, 1848, qui est cet internationalisme. Et je pense que c'est peut-être ça, voilà, qu'il faut regarder en premier.
Merci beaucoup Thomas Piketty d'être venu comme invité de notre première émission sur Karl Marx. Nous continuerons donc toute la semaine dans la Fabrique de l'Histoire jusqu'à jeudi. Et on peut dire aussi que cet après-midi, dans l'émission de Maïlys Bessery, entre 14 et 15 heures, entendez-vous l'écho ? Eh bien, il sera question de mondialisation dans la peau de Ricardo avec Ghislain de Laplace, puisqu'on a parlé brièvement de Ricardo dans cette émission, une émission préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marseille. Jean-Frédéric était avec nous à la technique et Thomas Duterre à la réalisation.